Nous en avons des milliards nichés dans les différentes cavités de notre corps et elles pèsent, elles, en moyenne 2 kilos dans notre organisme. Les bactéries n'en finissent pas de livrer leurs secrets. Elles sont au cœur de notre tête au carré cet après-midi. Ces bactéries que nous hébergeons, avec lesquelles nous vivons en symbiose, elles sont essentielles à notre survie. Elles font l'objet de découvertes de plus en plus nombreuses. Elles intéressent beaucoup les chercheurs. C'est le dossier donc cet après-midi avec vos messages, toutes vos questions pour nos invités, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui la disparition ce week-end du neurologue britannique Oliver Sacks.
Oui Mathieu, l'homme qui écoutait le murmure des cerveaux est mort dans la nuit de samedi à dimanche. Nous lui rendons hommage aujourd'hui à la une avec Jean-Claude Amezen et le neurologue Hervé Platel et vos questions sur Twitter.
Voilà donc pour le sommaire de cette tête au carré. Stéphanie Texier réalise l'émission qui était préparée aujourd'hui par François Mercier et Margot Dullard.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bienvenue dans notre écosystème bactérien, c'est donc le dossier dans quelques minutes. Pour en parler, je reçois le biologiste et immunologiste Philippe Kourilski et la microbiologiste Geneviève Herry-Arnaud. Bonjour,
bonjour à tous
les deux. Philippe Kourilski, les bactéries dans notre organisme, ce sont nos amis ou nos ennemis? Ou ça dépend des jours?
Principalement, ce sont nos amis, 99,9% du temps, et de temps en temps, il y a quelques intrus qui se faufilent dans cette immense population et qui arrivent à se frayer chemin et nous poser des problèmes.
Oui, à faire quelques dégâts.
Et à faire quelques dégâts.
Oui, ce sont les microbes les plus nombreux dans notre organisme.
Les plus nombreux ne sont pas ceux qui font des dégâts. Ceux qui font des dégâts sont ceux qui sont très très minoritaires et qui arrivent finalement à s'infiltrer à l'intérieur de l'organisme. Ce qui finalement définit un microbe pathogène qui est dangereux, c'est qu'il arrive à rentrer dans l'organisme, alors que sinon il est confiné dans l'espace superficiel, l'intestin, la peau, les poumons.
En faisant son travail.
En faisant son
normalement.
Boulot, comme tout le monde.
Geneviève Herry-Arnaud, vous êtes particulièrement intéressée par les bactéries qui nichent dans nos poumons. Il y a des pistes sérieuse à suivre pour comprendre certaines maladies, je crois.
Oui, alors déjà c'est une découverte assez récente il y a quelques années, de dire qu'on a des bactéries dans nos poumons, ça aurait choqué plus d'un. C'était quand même deux termes antinomiques, de parler de microbiote pulmonaire, puisque c'est le terme consacré dans un milieu qu'on pensait stérile. C'était 130 années de croyance, le poumon est stérile. Et donc on a découvert il y a à peu près 5 ans, grâce à des nouvelles technologies, que même chez le sujet sain, il y avait toute une flore, tout un microbiote au niveau pulmonaire. Et donc à l'heure actuelle, dans de nombreuses pathologies pulmonaires et en premier lieu la mucoviscidose, mais également l'asthme, la BPCO, nous découvrons que la connaissance de ces bactéries peut être une voie de progression de connaissance dans la physiopathologie de ces maladies pulmonaires.
On y revient avec vous, les bactéries donc qui nous colonisent, on en parle cet après-midi et on attend les questions des auditeurs sur franceinter.fr. C'était donc ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, le neurologue Oliver Sacks s'éteint dans sa maison de New York. Il avait 82 ans, il savait qu'il allait mourir et il en parlait d'ailleurs à la presse en février dès l'annonce de son cancer.
Je crois que la première chose que j'ai ressentie, c'est une immense tristesse. Il me restait tellement de choses à voir, tellement de choses à faire. Et quelques personnes m'ont écrit pour me consoler en me disant « Oh mais vous savez, tout le monde va mourir. » Mais merde, non, c'est pas tout le monde va mourir, il me reste 4 mois.
Voilà un extrait donc d'une des toutes dernières interviews données par Oliver Sacks à nos confrères anglais de Radiolab. Oliver Sacks qui était atteint d'un cancer du foie en phase terminale. Pour lui rendre hommage, nous sommes par téléphone avec Jean-Claude Amezen, le président du comité national d'éthique. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Et puis le professeur de neurophysiologie Hervé Platel. Bonjour à vous également.
Bonjour.
Jean-Claude Amezen, Oliver Sacks, c'était bien sûr un scientifique, un clinicien, et puis également un écrivain extrêmement populaire.
Oui, c'était un homme exceptionnel. C'est, je dirais, presque d'une autre époque, d'un autre siècle. À la fois un écrivain, un médecin, un scientifique, quelqu'un qui était passionné par l'histoire, quelqu'un qui était intensément curieux et quelqu'un qui essayait de partager, de faire partager ce qui, je dirais, malgré les épreuves, les désastres, la maladie et le handicap, ce qui a de profondément humain en chacun de nous.
Hervé Platel, vous conseillez d'ailleurs aux jeunes étudiants en neurophysiologie de lire Oliver Sacks.
Oui, en neuropsychologie, clairement. Et donc, dans ce domaine-là, on peut dire qu'Oliver Sacks a joué un rôle de passeur de science, de transmission de savoir, de grand vulgarisateur au sens noble du terme, car il a permis à la fois au grand public et à toute une génération de futurs neuropsychologues et de chercheurs en neuropsychologie d'être sensibilisés effectivement aux problèmes des liens entre maladies du cerveau et troubles du comportement.
Et Jean-Claude Amezen, dans ses livres, justement, Oliver Sacks a raconté des histoires autour de pathologies neurologiques qui pouvaient faire peur à beaucoup de monde. Hein.
Oui, tout à fait. Et ce qu'il a fait, c'est pas ce qui était fait d'habitude, de les raconter de l'extérieur, de les décrire. C'est d'essayer non seulement de permettre de les comprendre quand on les regarde de l'extérieur, mais de encore une fois, de faire partager ce que ressentent les personnes et de montrer que derrière l'étrangeté la plus grande, la singularité la plus grande, ce qui peut faire peur, il y a toujours une vie humaine en train de se reconstruire. Et je crois que ce qu'il y a de très particulier aussi, c'est l'importance qu'il a accordée à l'art. Non seulement dans l'art de l'écriture, mais dans ce qu'il appelait le pouvoir thérapeutique de l'art, hein, le pouvoir thérapeutique de la musique. Et puis, ce que je trouve très émouvant chez Oliver Sacks, c'est que petit à petit, à mesure qu'il écrivait ses livres, il a révélé sa propre singularité, sa propre étrangeté. Et donc, d'une certaine façon, c'était un médecin qui essayait de partager ce que ressentent des personnes dans un grand état de vulnérabilité, tout en essayant de montrer que lui-même et chacun d'entre nous sommes d'une certaine façon étranges et singuliers. Donc je crois qu'au-delà de ce qu'il a apporté en médecine, au-delà de ce qu'il a apporté en psychologie, il a changé le regard, il a contribué profondément à changer le regard sur le handicap.
Et qu'est-ce que vous entendez par l'étrangeté d'Oliver Sacks, Jean-Claude ?
Alors le fait qu'il révèle dans l'œil de l'esprit il y a quelques années qu'il ne reconnaît pas les visages, qu'il ne les a jamais reconnus. Donc on s'aperçoit que, au fond, ce qu'il décrit comme des handicaps chez les autres, il en a vécu certains. Et donc c'est quelqu'un qui nous révèle à la fois que nous sommes tous un peu singuliers, un peu bizarres, un peu étranges, et que en s'appuyant sur cette singularité, on peut d'autant plus facilement aller à la rencontre des autres.
Il était atteint de prosopagnosis, une maladie assez rare, hein, qui fait qu'on ne reconnaît pas les visages. Et il en parlait d'ailleurs à Laure Adler dans l'émission Hors Champ sur France Culture.
Il dit lui qu'elle n'était pas si rare que ça.
Pas si rare que ça, écoutez-le.
Comment reconnaissez-vous une personne ? Et est-il vrai que vous avez un problème de reconnaissance du visage ?
Effectivement, c'est un problème auquel je suis très souvent confrontée. Vous voyez, j'ai par exemple du mal à reconnaître mon assistante Cathy, avec qui je travaille depuis plus de 30 ans. Si je la rencontre dans un endroit inattendu ou hors contexte, je peux ne pas la reconnaître. Parfois, j'ai du mal à me reconnaître moi-même. Il y a d'ailleurs cette anecdote. C'est assez surprenant. J'étais à la terrasse d'un restaurant et sur la vitrine du restaurant, j'étais en train de me peigner la barbe à travers donc cette vitrine. Et donc, le reflet n'était pas en train de peigner sa barbe. Et tout à coup, j'ai réalisé qu'il y avait un homme barbu de l'autre côté de cette vitre et qui ne comprenait pas pourquoi j'étais en train de me peigner en le regardant avec intensité.
Voilà, donc cette incapacité à reconnaître les visages, la prosopagnosie, Jean-Claude Amezen, c'est le thème central d'un des livres d'Oliver Sacks.
C'est l'un des thèmes, et je me suis toujours dit, parce qu'il y a quelque chose de très touchant dans ce handicap qu'il décrit, et qui en fait se révèle assez fréquent et qui touche à des degrés divers quelques pourcents de personnes, alors que c'était considéré comme très rare, je me suis toujours dit que peut-être cette difficulté à reconnaître les visages était un des éléments qui l'avait poussé à aller chercher ce que Emmanuel Lévinas appelle le véritable visage, c'est-à-dire ce qui fait en fait la personne au-delà des apparences, au-delà des traits de sa face.
Voilà un des thèmes du livre « L'œil de l'esprit ». Axel ?
Hervé Platel, on lui a parfois reproché d'être trop curieux, peut-être de servir de ses patients pour vendre des livres. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, alors moi je trouve que c'est c'est une, un reproche qui est malvenu dans son cas. Il l'a dit d'ailleurs que bon, c'est toujours un équilibre délicat quand on est un médecin, effectivement, d'aller après reprendre ses cas cliniques pour vulgariser un certain nombre d'idées. Mais si on lui fait le reproche à lui, il faut faire le reproche évidemment à tous les à Freud et à toute la psychanalyse. Il faut en faire le reproche effectivement à tout un tas de domaines médicaux. Donc c'est un faux reproche. Moi je pense que c'est un grand vulgarisateur et comme le disait Jean-Claude Ametsan, ce qui est intéressant c'est que il nous amène à nous interroger sur notre cerveau mais sans en avoir peur, en le prenant en compte, en voyant sa singularité et en essayant effectivement d'avoir ce miroir que sont les neurosciences aujourd'hui, ce miroir sur la compréhension de notre cerveau, de se l'approprier et sans en fin de compte avoir quelque chose de froid et d'anxiogène devant soi, ce qui n'est pas forcément facile.
Il avait des méthodes de clinicien peu orthodoxes, Jean-Claude Ametsan, quand même.
Je ne sais pas si elles étaient orthodoxes ou pas. En tout cas, il avait des méthodes qui ressemblent à celles des médecins généralistes du début du siècle. Il allait voir ses patients, il discutait avec eux, il les voyait en dehors de chez eux, il les voyait dans les situations réelles de la vie. Donc, il s'intéressait autant, si ce n'est plus, à la personne que à la maladie elle-même, hein, je crois. Et il y a quelque chose de très moderne chez lui, qui est... Vous savez qu'on parle beaucoup aujourd'hui de médecine narrative, c'est-à-dire que raconter sa maladie fait partie d'une manière de se la réapproprier, de surmonter la détresse. Et ce qu'il a montré au fond, c'est que une maladie, c'est quelque chose qui se raconte, c'est quelque chose qui n'a pas de sens si la personne qui la vit, qui la subit, ne peut pas en parler, la partager, se l'approprier. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très moderne et c'est, je dirais, c'est son talent d'écrivain, sa fascination pour le langage, pour cette capacité que nous avons à partager ce qui a priori est impartageable par le langage et par d'autres formes plus anciennes de langage, de communication.
Hervé Platel, pour terminer, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, c'est l'un des plus grands succès d'Oliver Sacks, hein, dans lequel il décrit une vingtaine d'affections tout à fait étranges. Et puis plus récemment, Musicophilia, là, c'est justement pour rentrer dans le thème qu'évoquait Jean-Claude Ametsan, ce lien entre l'art et la science. Hein.
L'art et la science, et en particulier la musique. Oliver Sacks a été à l'origine de la création d'un institut sur l'étude, en fin de compte, de la musicothérapie et de ses fondements biologiques. Et de ce point de vue-là aussi, il a été un précurseur. Et clairement, Musicophilia, qui parle de ça, et qui est le livre, effectivement, en 2008 qu'il a publié, on n'aurait pas imaginé que ce serait un succès littéraire, et ça a été un succès littéraire. Mmh. Donc ça répondait bien à une attente.
Voilà, et on vous retrouvera d'ailleurs avec Platel le 12 septembre prochain pour le troisième volet de vos conférences Musique et Cerveau, dans l'esprit d'Oliver Sacks.
Exactement. De la santé et de la musique.
Ce sera la maison de la radio, et il faut s'inscrire sur, justement, le site radiofrance.fr, et puis Jean-Claude Ametsan, bien sûr, samedi, 11h sur les épaules de Darwin. Merci beaucoup à tous les deux pour cet hommage à Oliver Sacks. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, en physique des particules, le modèle standard qui n'avait jusqu'alors jamais été mis en défaut pourrait être ébranlé avec l'aide de l'accélérateur de particules du CERN. Une équipe de chercheurs internationaux a trouvé des particules subatomiques, les maisons B, qui pourraient enfin défier ce modèle inchangé depuis des décennies. Mais attention, rien n'a encore été confirmé à ce jour. Un vaccin contre la chlamydia pourrait être trouvé grâce aux koalas. Une étude australienne montre qu'entre 40 et 70% des koalas possèdent la chlamydia quelque part dans leur corps. Un vaccin a donc été testé sur ces animaux et certains sembleraient immunisés contre la maladie. Cette infection sexuellement transmissible et qui est due à des bactéries, justement, touche 3% des femmes en France. Et puis pour finir, une mise à mort spectaculaire. C'est une vidéo dénichée par le site Guru Méditation. On y voit une armée de fourmis attaquant un mille-pattes de 15 cm de longueur. Après une offensive de 14 minutes pour le paralyser, la vidéo montre la horde de fourmis créant des chaînes pour traîner la bête jusqu'à son nid. La vidéo est à retrouver sur le Facebook de la Tête au Carré et sur notre compte Twitter. Et nous partons justement au pays des bactéries dans un instant.
Of action and what you are. J-A-A-I, I'm yours even if time has passed. Take me away from this impetuous world.
Jane, comme sur France Inter.
100 000 milliards de bactéries habitent notre tube digestif. Il y a 1000 fois plus de bactéries dans chacun de nous que d'étoiles dans notre galaxie.
Je suis un être humain et mes cellules sont issues de l'œuf, résultant de la fécondation de l'ovule de ma mère par le spermatozoïde de mon père. Et toutes ces cellules qui ont proliféré, ça a fabriqué mon corps. Et moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je croyais que c'était ça, moi. Et puis j'ai découvert que non. Qu'en fait, ça, c'est un petit bout de moi. Et qu'il y a un énorme bout qui est constitué de bactéries microscopiques. Et qu'en fait, je suis un écosystème.
Et la voix du biologiste Pierre-Henri Gouillon avec notre dossier rempli de bactéries dans la tête au carré pour comprendre comment se comportent ces micro-organismes nombreux donc dans notre corps. Et puis bien sûr, quelles sont les pistes pour les utiliser à des fins thérapeutiques. Mes invités donc pour en discuter, Philippe Kourilski, vous êtes biologiste et immunologiste, ancien directeur de l'Institut Pasteur et professeur émérite au Collège de France. Vous êtes membre de l'Académie des sciences et on a eu le plaisir de vous recevoir l'année dernière, je me souviens, autour de ce livre chez Odile Jacob, Le jeu du hasard et de la complexité, la nouvelle science de l'immunologie. Et puis à vos côtés, Geneviève Héry-Arnaud, vous êtes microbiologiste, maître de conférence à la faculté de médecine de Brest, praticien hospitalier au CHU de Brest, au labo de bactériologie, et vous êtes spécialisé dans le microbiote pulmonaire, en bactériologie de la mucoviscidose, et vos recherches s'intéressent donc en particulier à décrypter le rôle du microbiote pulmonaire dans l'évolution de cette maladie. On va en parler avec vous dans quelques minutes. Les bactéries et les questions des auditeurs qui arrivent déjà sur le site de l'émission. Alors, Philippe Kourilski, pendant cette discussion sur les bactéries, on va beaucoup parler de microbiote. Est-ce que d'abord vous pouvez nous préciser les choses pour qu'on ne se perde pas dans les différents thèmes que vous allez utiliser? Qu'est-ce qu'on entend par microbiote d'abord?
Bon, le microbiote, c'est l'ensemble des microbes, des micro-organismes qui vivent en symbiose avec nous. Mmh. Pour dire les choses autrement, nous avons un organe de plus. Cet organe, c'est le microbiote. C'est l'ensemble de ces bactéries dont le représentant le plus volumineux, si j'ose dire, se trouve dans l'intestin.
Oui.
Mais comme vous l'avez dit en introduction, on a tous 1,5 kg ou 2 kg de bactéries quand
même. Quand même, ouais.
Donc c'est aussi gros que le cerveau, quoi. Mm-hmm. Ça pèse. Et donc, ce qu'on a découvert récemment, c'est le moyen d'étudier ce microbiote et de commencer à comprendre comment cet organe de plus interagit avec les autres. Et ça va être le thème de tout ce qu'on va discuter,
c'est
ce problème des interactions.
Ouais. Sauf que Geneviève Héry-Arnaud, est-ce qu'on va parler, quand on évoque justement un microbiote, uniquement de bactéries? bactéries, il y a d'autres micro-organismes dans le microbiote quand même.
En fait, le microbiote qu'on retrouve chez l'homme, on y retrouve en fait toutes les formes de biologie de micro-organismes. Donc on y retrouve essentiellement des bactéries, mais pas que. Oui. On va y retrouver aussi des virus, notamment aussi sous la forme de phages, des parasites, des levures, des champignons. Oui. Donc en gros, toute la diversité du monde microscopique du vivant, on le retrouve au sein de nous-mêmes.
C'est ça. Sauf que nous, on va parler du microbiote bactérien aujourd'hui.
Alors, en tant que bactériologiste, moi, je vais essentiellement parler du microbiote bactérien,
et
c'est
Philippe
sûr.
Philippe Kowalski aussi. Hein. On est d'accord. On va rester sur les bactéries.
Et l'essentiel des recherches, effectivement, ont été actuellement dirigées sur le microbiote, sur la part bactérienne, en fait, du microbiote.
Et alors, si je vous entends prononcer le mot de microbiome, Philippe Kowalski, là, il faut comprendre quoi exactement ?
Les gènes. Donc, ce ne sont plus les bactéries, puisqu'on va parler de bactéries, ce sont les gènes des bactéries. Ouais. L'ensemble des gènes des bactéries.
Le génome des bactéries. Ouais. En fait, c'est né des nouvelles techniques qui nous ont permis d'aborder, d'approcher ce microbiote, l'existence même de ce microbiote, qui sont basées en fait sur la mise en évidence du génome des bactéries. Donc ces techniques, on parle de séquençage à haut débit, donc qui ont été une véritable rupture technologique, qui ont expliqué en fait la grande révolution que constitue le microbiote depuis une petite dizaine d'années.
Alors les bactéries, Philippe Kowalski, c'est un champ d'exploration scientifique récent plutôt, ou pas ? J'ai l'impression qu'on fait des découvertes là vraiment en ce moment. En tout cas, on parle beaucoup de l'intestin. On parle beaucoup des bactéries.
Non, ce qui est récent, ce n'est pas l'étude sur les bactéries, puisque les bactéries ont été les premiers êtres vivants à être analysés par les biologistes moléculaires dans les années 1950. Ce qui est nouveau, c'est que cet écosystème extrêmement complexe, qui comprend des milliers de types de bactéries en interaction avec les autres, on commence, comme l'a dit Geneviève, à savoir les étudier par des techniques qui sont fondamentalement du séquençage, comme on dit. Oui. Donc en gros, on prend un petit peu de ce microbiote qui viennent des intestins, qui viennent des poumons, c'est un peu plus compliqué, de la peau, de la bouche, du vagin, enfin bon, et puis on séquence en vrac. Donc on a un énorme mélange, on séquence tout.
On balaye.
Hein, voilà. Et puis, l'astuce, c'est que grâce à des moyens informatiques très, très développés maintenant, aux bases de données, etc., on arrive à reconstituer la composition de ce mélange. Et à partir de ça, on peut enfin faire des déductions qui permettent d'approcher la question de façon scientifique.
Ouais. Mais les bactéries en soi, c'est facile à manipuler ou pas ?
Ah oui, très facile. Ouais. 4 années d'internat. Non, je plaisante. Avec les techniques conventionnelles qui nous viennent en fait de Pasteur, ce n'est pas quelque chose de très difficile. Il suffit d'avoir une boîte de pétri, le prélèvement, de quoi l'ensemencer, une étuve à 37 degrés. Et là, c'est parti, vous faites de la bactériologie. Donc, en gros, ça fait un siècle qu'on fait de la bactériologie comme ça. Et là, c'est pour ça aussi qu'on parle à nouveau des bactéries, c'est qu'on les redécouvre sous un autre angle. On parlait des bactéries sous l'angle de pathogènes, responsables d'infections. Un tiers des maladies dans le monde entier sont des maladies infectieuses. Donc jusqu'à présent, on était plutôt habitué à parler des bactéries sous l'angle, on va dire, mauvais, oui, l'angle des infections. Vrai. Et avec le microbiote, finalement, on découvre une part totalement positive nos bactéries.
On pourrait dire la même chose des virus, d'ailleurs. Hein.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment une image très négative du virus, alors qu'aujourd'hui, on en découvre les bienfaits et les outils thérapeutiques aussi, hein, qu'on peut développer.
Et pour juste dire un mot de plus, ce qui se passe également, c'est qu'il y avait énormément de bactéries qu'on ne sait pas cultiver.
Et pourquoi ?
En fait, parce qu'il faut des facteurs de croissance, on faut un bouillon de culture particulier qui n'a pas été, etc. Ouais. Et par le séquençage, on ignore ça, on voit tout ce qu'il y a.
Voilà, on prend un chemin détourné au fond pour avoir les informations qui nous intéressent.
Pour atteindre
on y va.
Directo.
On y va directo, on touche en fait la part des incultivables. Ouais. Par exemple, dans le sol, ça a été montré, les premiers travaux qui ont montré l'intérêt de ces nouvelles techniques de séquençage au débit ont montré qu'en fait 99% des bactéries n'étaient pas cultivables. Et c'est la même chose en fait pour le microbiote digestif. Ce sont des bactéries qui sont quasi incultivables ou alors très très difficilement, notamment parce qu'elles sont extrêmement sensibles à l'oxygène. Et donc forcément dans nos laboratoires, on manipule en conditions aérobies et donc on n'arrive pas les faire ressortir. C'est très compliqué.
Christophe sur Twitter demande ceci. Qu'est-ce qui fait qu'une bactérie est bienfaisante ou pathogène pour l'homme ? La bienfaisante est-elle mieux adaptée à son hôte ? Philippe Kowalski.
Écoutez, depuis que l'homme est homme et avant qu'il soit homme, il y avait des animaux et avant, etc., les bactéries vivent en symbiose. Bon. La symbiose, c'est un état dans lequel nous vivons avec des bactéries vivent avec nous, et en gros, chacun y trouve son intérêt.
Ouais.
Donc, en gros, toutes ces bactéries sont bienfaisantes, et encore une fois, l'énorme majorité des bactéries, d'ailleurs dans le sol ou dans notre intestin, sont bienfaisantes.
Mmh. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, ça se passe pas tout à fait normalement.
Il y a une espèce qui trouve le moyen de rompre les barrières, de s'infiltrer dans l'organisme et de s'y développer, et là, on a un problème.
On a souvent, quand on parle du microbiote et qu'on arrive à parler de maladie, c'est qu'il y a une rupture d'équilibre. En fait, il faut voir l'homme comme un écosystème très complexe, de relations très complexes qui se sont nouées au fil des années. En fait, on commence à connaître nos bactéries dès notre naissance. On les rencontre au moment de l'accouchement, par contact avec la filière génitale de la maman. Mm-hmm. Et se noue déjà une première relation. Et au fil des années, se forge effectivement une relation symbiotique. Mais il suffit que cet équilibre, pour une raison ou pour un autre, par exemple pour une antibiothérapie ou une immunodépression qui arrive, cet équilibre se rompt et peut aboutir à une maladie. Donc c'est le cas de figure pour 99% des bactéries.
La prise de médicaments, hein,
c'est par ça exemple, la prise de médicaments, notamment des antibiotiques qui vont détruire et éradiquer une partie de notre microbiote, peut favoriser la survenue de maladie. Donc ça, c'est 99% des bactéries. Certaines bactéries, cela dit, sont naturellement douées pour être pathogènes, virulentes, ce qu'on appelle des bactéries pathogènes vraies. Et là, quel que soit le scénario, c'est les méchants.
Voilà.
Par exemple, on peut parler du méningocoque, et encore que le méningocoque se discute, on peut parler de la tuberculose, donc des bactéries, en fait, qui, dans tous les cas, vont rendre le sujet malade.
Mmh. Philippe Kourilski, le fœtus est doté de ses propres bactéries ou ce sont celles de la mère dont
il
bénéficie ?
Il hérite de celles de la mère. Et d'ailleurs, pour compléter ce qui vient d'être
dit... À quel moment, alors, il possède ? Au moment vraiment de l'accouchement ?
Ben, c'est au moment de l'accouchement. Et du coup, d'où la question pertinente de savoir si le bébé né par césarienne va-t-il avoir le même microbiote ? Et la réponse est non, il n'a pas exactement le même. D'où maintenant des hypothèses, des soupçons, c'est pas encore bien prouvé, que ça pourrait être lié à des allergies, par exemple, particulières. Mais on est dans l'ère du soupçon, là.
Ouais.
Mais la question est pertinente, et il est à peu près établi que le microbiote d'un bébé qui est né par césarienne n'est pas exactement le même que celui de son jumeau qui serait né par... naturellement.
Est-ce que ça veut dire que le système immunitaire de cet enfant né par césarienne aussi sera différent alors ?
Ben, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'organisme se développe en même temps que son microbiote. Donc, par exemple, par des expériences chez la souris, on sait que le cerveau de la souris ne se développe pas correctement si le microbiote n'est pas là.
Mmh.
De la même manière, le microbiote de l'enfant se développe, et puis il y a des vagues successives, et puis il mûrit, et puis donc le microbiote de l'adulte n'est pas tout à fait le même que celui de l'adolescent, qui n'est pas celui le même que celui de l'enfant, qui d'ailleurs n'est pas non plus le même que celui de la personne âgée. Donc il y a une gradation dans l'évolution de ce microbiote, et donc à chaque étape, on peut se poser des questions sur les relations.
Donc Geneviève Héry-Arnaud, au moment de l'accouchement, lorsque le bébé sort du ventre de sa mère, il est doté de son bouclier bactérien comme ça ?
Comme ça, oui, grâce à l'accouchement. Mais effectivement, le passage par la filière génitale est une étape primordiale en fait pour l'installation des bactéries qu'on dit pionnières, qui ont un rôle vraiment fondamental sur la santé future du bébé. Et donc, il va se coloniser avec des bactéries qu'on appelle des lactobacillus. On parle aussi de fleurs de Döderlein. Donc, toute cette fleur qui existe naturellement au niveau de la muqueuse vaginale fait partie en fait des premières bactéries qui vont coloniser l'enfant.
Allez, c'est passionnant et on vous retrouve dans un instant pour poursuivre notre discussion. Il y a des questions pour vous qui arrivent. Je vous les soumets dans un instant dans La Tête au Carré sur franceinter.fr. Plage isolée avec Polo et Pan à l'instant sur France Inter et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Nous avons ouvert cet après-midi un dossier bactéries avec Philippe Kourilski et Geneviève Héry-Arnaud, avec vos messages qui arrivent déjà sur le site de l'émission nombreux. Jean-Paul, tiens, demande ceci, est-ce qu'il est illusoire de vouloir combattre les bactéries pathogènes, sachant que celles-ci ont déjà quelques centaines de millions d'années d'existence par rapport à l'homme? Même plus, Philippe Kourilski, on parle en milliards d'années, non?
Oui, plutôt, mais la réponse c'est que, de toute façon, on est en... dans le rapport classique entre les prédateurs et les proies. Mmh. Donc, les bactéries essaient de nous bouffer et nous, on bouffe des bactéries. Donc, quelque part, ça se débrouille. Quoi.
C'est une bonne guerre. Mais alors, elles sont émergées à quel moment dans l'histoire de la vie, les bactéries, Geneviève Héry-Arnaud?
Ah bah alors, c'est dans les toutes premières heures de la vie terrestre. C'est plusieurs milliards d'années, je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais elles ont une bonne longueur d'avance sur nous, en tout cas, en termes d'existence sur cette planète.
Et la vie commence donc avec les bactéries, hein, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, dès la naissance, puisque l'enfant donc, est en contact avec ces bactéries. Il y a plus de bactéries que de cellules humaines, alors, dans notre corps, hein, Philippe?
On estime qu'il y a 10 fois plus, à peu
dix,
près.
10 fois plus, ouais. Et on connaît mieux les cellules que les bactéries, ou pas?
C'est compliqué. Je veux dire, on connaît très bien un certain nombre de cellules humaines, et de mieux en mieux, et on connaît très bien un certain nombre de bactéries, mais l'énorme diversité des bactéries fait que le microbiote est quand même très largement inconnu aujourd'hui.
Oui. Et nous en avons dans l'ensemble de notre organisme. Dans toutes les parties de notre corps, on va trouver ces bactéries.
Oui, tout à fait. En fait, on parle du microbiote, mais on serait peut-être plus juste en parlant des microbiotes. En fait, on montre
selon l'endroit,
le site anatomique, selon la niche écologique. Donc, par exemple, il y a une niche au niveau de l'intestin, des poumons, de la muqueuse vaginale,
de la bouche,
bien sûr, beaucoup. Des dents, de la peau, et on peut décliner en fait tout autant d'écosystèmes et donc tout autant de microbiotes bien particuliers qu'il y a de sites anatomiques.
Et pourquoi autant de bactéries dans l'intestin en particulier, Philippe Kourilski?
Parce qu'elles jouent un rôle absolument fondamental dans l'alimentation, la digestion et l'extraction de l'énergie. Hein. Ce qui d'ailleurs peut amener à l'observation suivante. Vous avez plusieurs types principaux dans l'intestin de bactéries. Certaines extraient l'énergie plus efficacement que d'autres. Et donc, avec le même bol alimentaire, en mangeant exactement la même chose, vous allez avoir des individus qui absorbent plus d'énergie que d'autres. Mmh. Et donc, ça explique que, dans une certaine mesure, les obèses soient différents des gens minces au niveau de leur microbiote.
Oui, ça, c'est vraiment l'association la mieux connue aujourd'hui entre des bactéries et une pathologie, l'obésité?
Il y a pas mal d'associations qui sont maintenant bien documentées. Ça a été, je crois, la première à être véritablement très bien documentée.
Oui, Larry, justement, demandait qu'en est-il des trois types de bactéries intestinales. Ces trois types restent-ils pertinents?
Oui, la réponse est oui, et c'est ce déséquilibre, en gros, qui corrèle avec l'obésité.
Oui, on montre effectivement dans l'obésité qu'il y a un déséquilibre total de ces trois types. En fait, je pense que l'auditeur veut parler des trois entérotypes qui ont été décrits. Dans toute la population mondiale, il y a eu une description, notamment sous l'instar de l'équipe de Julien Josas, l'INRA de Michaelis, qui a montré en fait qu'on pouvait décrire chez des sujets sains, on pouvait décrire trois types de microbiotes, chacun tiré par un type de bactéries particulier. Et ce qui a été montré, c'est que c'est des sujets atteints d'obésité. On avait un déséquilibre total, en fait, du microbiote avec moins de diversité.
Moins de diversité, principalement.
Moins de diversité, notamment. Variation dans la structure, dans la composition de ce microbiote, mais surtout une perte de la diversité.
Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer, justement, réintroduire cette diversité chez les personnes obèses?
Alors ça fait partie effectivement des perspectives de traitement qui sont à l'heure actuelle en cours d'étude.
Chez l'animal
Chez l'animal, tout à fait, où il a été montré qu'en réintroduisant un microbiote dit sain, on pouvait arriver finalement à réguler la prise de poids chez les souris. À l'inverse aussi, il a été montré que chez des souris qui étaient exemptes en fait de microbiote, on parle de souris germ-free, donc qui sont sans microbiote, il fallait nourrir 30 à 40 fois plus, enfin il fallait leur apporter 30 à 40 fois plus d'apport nutritionnel pour arriver au même poids qu'une souris qui aurait un microbiote.
Ouais. Mais c'est possible de vivre bien, sans fait, microbiote.
Comment?
C'est possible de vivre sans microbiote.
Alors ça,
du
les
tout
souris, en fait, elles sont dans un confinement particulier pour les préserver. Mais donc c'est vraiment, ça n'existe que chez la
c'est
souris.
Ça.
C'est vraiment un modèle d'étude.
Pour l'expérience, hein. Oui, pour Philippe Sourelski.
Oui, oui. Et puis les souris en question, elles font pitié. Hein,
oui, c'est ça. Elles ne doivent pas être très en forme. Hein. Charlie nous demande, le microbiote peut-il être malade? Oui.
Bah, que lorsqu'il est déséquilibré, il peut être malade. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces bactéries dans l'intestin produisent un tas de molécules, bon, dont certaines sont essentielles pour la vie humaine, par exemple.
Des molécules, c'est-à-dire des sortes de médicaments
naturels?
Non, des
molécules, par exemple, des acides aminés qui sont les constituants majeurs des protéines qui sont extraits de l'alimentation. Par exemple, le corps humain est à peu près incapable de produire suffisamment d'un truc qui s'appelle le tryptophane.
Bon. Qu'est-ce que c'est?
Le tryptophane, c'est un des 20 éléments qui rentrent dans la composition des protéines, et les protéines, c'est absolument vital. Sans protéines, on n'existe pas. Okay. Et donc, si on déséquilibre le microbiote et que les bactéries font moins de tryptophane, ben du coup, ça va moins bien.
Oui.
Et donc, des effets, par exemple, indirects des antibiotiques, ça peut être ça. Ça peut être un déséquilibre de la flore qui fait que certains constituants qui sont normalement apportés à l'organisme par le microbiote ne sont plus produits en quantité suffisante, et donc ça peut entraîner des fatigues, des dysfonctionnements.
Et cette question justement de Clem, les antibiotiques sont-ils sélectifs ou est-ce qu'ils attaquent aussi nos gentilles bactéries?
Alors ça c'est une excellente question, surtout pour la bactériologiste médicale que je suis. Effectivement, il y a des effets collatéraux de l'antibiothérapie. L'antibiothérapie, on va pas revenir sur les effets hyper bénéfiques du traitement par des antibiotiques dans certains cas d'infection qui ne peuvent être traités que par des antibiotiques. Mais l'effet collatéral, c'est effectivement l'atteinte du microbiote, notamment le microbiote intestinal, où finalement on va, en même temps qu'on traite le pathogène, on risque d'éradiquer toutes ces bonnes bactéries qui participent à notre bonne santé. Et une des complications à l'heure actuelle les mieux connues, c'est la toxine, c'est les entérocolites à Clostridium difficile. Donc en fait, c'est une bactérie qu'on peut avoir au sein de l'intestin qui va résister à l'antibiotique qui sera administré, qui va donc proliférer au détriment des autres bactéries. Et cette bactérie est capable de produire une toxine qui va atteindre l'intestin sous la forme vraiment d'une inflammation majeure. Et à l'heure actuelle, effectivement, une des voies de traitement de ces entérocolites nécrosante, à Clostridium difficile, après plusieurs échecs de traitement, c'est la transplantation fécale. Donc finalement, on arrive au microbiote comme un médicament pour réinstaurer cet équilibre. Donc la notion d'équilibre est vraiment, d'homéostasie, on parle, est vraiment fondamentale quand on parle de santé et microbiote.
Ouais. Philippe Sourelski, est-ce que l'hygiène peut nuire aussi aux bactéries qui sont présentes sur notre corps?
Ah ben ça, c'est... C'est une bonne question, mais l'hygiène va favoriser la croissance des bonnes bactéries. C'est-à-dire que c'est le...
Donc là aussi, il y a un équilibre à assurer.
Il y a encore un équilibre à assurer, oui. Absolument.
Donc l'hygiène permet de nettoyer, en fait, tout ce qui ne sert plus. Mais oui, trop d'hygiène...
Mais trop d'hygiène
Oui, mais je croyais que vous faisiez allusion à une théorie qui est très intéressante et qui apporte une très belle question. C'est que trop d'hygiène est supposée avoir modifié le système immunitaire des Occidentaux et à les rendre plus susceptibles à un certain nombre de maladies.
Oui. Bon.
Et la question qu'on reformule maintenant, qu'on a découvert un certain nombre de propriétés du microbiote, c'est est-ce que l'hygiène modifie la composition du microbiote de telle sorte que ça modifie le système immunitaire, de telle sorte que...
Avec des effets en cascade.
Avec des effets en cascade. Et la réponse est probablement oui. Si vous le permettez, en une seconde, je définis le rôle du microbiote par rapport au système immunitaire, parce que c'est très important. Vous avez dans l'intestin des bactéries qui extraient donc des toutes sortes de produits qui dégradent et qui relâchent un certain nombre de molécules. Parmi ces molécules figurent des molécules qui sont activatrices du système immunitaire. Et donc, selon la composition du microbiote, le système immunitaire est plus ou moins activé. On sait qu'en général, ce qu'on appelle l'inflammation, qui est une sorte d'état d'activation du système immunitaire à l'intérieur de nous, est plutôt favorable au développement d'un certain nombre de maladies. Donc l'inflammation, par exemple, est associée à l'athérosclérose, à des trucs comme ça. Donc il y a beaucoup à l'arthrite rhumatoïde, à plein de maladies. Du coup, il y a maintenant un soupçon entre la composition d'association entre la composition du microbiote et le développement ou l'aggravation de certaines de ces maladies. Donc ça ouvre énormément le champ d'intervention du microbiote.
Écoutons ensemble cette publicité québécoise.
Nous voulons toutes que notre peau soit douce et l'air en santé. Voici le gel nettoyant moussant Johnson's pH 5.5. Certains savons peuvent irriter ou dessécher la peau avec un pH aussi élevé que 10. Johnson's pH 5.5 a un pH comme celui d'une peau d'allure saine. Il nettoie et adoucit tout en harmonie. Pour une peau d'allure saine, nous sommes toutes pH 5.5.
Toutes et tous, quand même. Il n'y a pas que les femmes qui sont pH 5.5.
Je le dis avec rire. Mais là, je ne connais pas le produit. Mais
je pense que là, il faut. Bactéries,
oui, justement, je pense que là, ça fait référence quand même à l'hygiène intime des femmes, ce produit. Parce qu'effectivement, ça met le doigt, en fait, sur l'écosystème vaginal, qui est un écosystème aussi qu'on commence de mieux en mieux à comprendre. Et derrière ça, il y a la notion de préservation du pH et de l'écosystème.
Moi, je pensais au savon, en règle générale, et pour tous les corps, qu'ils soient masculins. Féminin, vu qu'on n'avait pas l'image et qu'on ne savait pas vraiment de quel produit on parlait. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre dossier. On va justement explorer avec vous le microbiote pulmonaire. Ça fait l'objet aussi là de découvertes récentes très intéressantes.
Sasha plays with Brit. Adolf builds a bonfire. Enrico plays with it. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Whistling tunes, we're kissing baboons in the jungle. Could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Chiang Ching's is blue. They all have hills to fly them on, except for Lin Tai Yu. Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears.
Et c'est Peter Gabriel sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Philippe Kourilski, Le jeu du hasard et de la complexité, la nouvelle science de l'immunologie. C'était chez Odile Jacob l'année dernière et vous y parliez, entre autres, des bactéries, mais pas seulement. Hein.
Oui, absolument. Mais j'y parlais des bactéries comme justement intégrées dans l'organisme. Et donc, ce microbiote, il couvre effectivement toutes les surfaces internes et externes de l'organisme. Hein, et donc, il est... Alors, il y a un point qui est important, c'est de se demander comment ça communique tout ça.
Justement, c'est une question de Charlie. Voilà, est-ce qu'on connaît les moyens de communication entre le microbiote et les organes? Bon, je vous l'avais posé quand même en antenne, hein. On fait genre, voilà, mais...
D'accord. Il y a plusieurs types de communication et c'est très intéressant. D'abord, l'intestin est innervé. Il y a beaucoup de nerfs. Bon. Donc, il y a une communication par l'intermédiaire du système nerveux. Cette communication, incidemment, ça remonte au cerveau, mais les ganglions, par exemple, et le système immunitaire est lui-même aussi sous contrôle, enfin en interaction avec le système nerveux. Mmh. Puis alors, le deuxième mode d'interaction, c'est la fabrication donc par les bactéries qui sont dans ce fameux microbiote, d'un certain nombre de produits qui percolent dans l'organisme. Donc j'ai parlé tout à l'heure de ces produits qui activent le système immunitaire. Et juste un mot de plus pour vous dire qu'une découverte récente et qui m'a beaucoup surpris personnellement, c'est d'apprendre que certaines bactéries synthétisent des molécules qui sont exactement les mêmes que des neurotransmetteurs qui viennent du système nerveux central. Donc c'est comme si le microbiote injectait dans l'organisme des molécules qui sont normalement synthétisées par le système nerveux. Qu'est-ce que ça fait? Pour l'instant, on n'en sait rien, mais clairement, il y a une interaction qui fait dire à certains, d'ailleurs, que le microbiote a son cerveau.
C'est ça.
Un abus de langage, évidemment.
Bon, on l'emploie beaucoup, hein. Oui, c'est un terme qui est vraiment entré dans le langage. Ouais. Le deuxième cerveau.
Le deuxième cerveau, en tout cas.
Mais bon, l'idée est intéressante, L'analogie est pas tout à fait fausse. Jean-Paul nous dit ceci, les affections neurodégénératives comme Parkinson ou Alzheimer sont-elles provoquées par des bactéries, Geneviève Herriot-Arnaud?
Alors, au jour d'aujourd'hui, je me garderai bien de faire ce raccourci. Par contre, c'est vrai que, en gros, dès qu'on s'attaque à une pathologie, qu'on va étudier le microbiote du patient, on va retrouver des modifications. Alors, de là à franchir le pas pour dire que le microbiote est responsable, je me garderai bien, il n'y a pas de lien de causalité, mais c'est vrai qu'il y a probablement dans beaucoup de pathologies qui ne sont pas infectieuses, un lien avec le microbiote. Alors, est-ce que c'est la cause? Enfin, c'est toute la question de l'œuf et de la poule. Là, on n'en est pas là, on est vraiment aux prémices hein, de cette recherche. Donc, rendez-vous dans quelques années pour répondre.
Brigitte nous demande ceci. Que pensez-vous, Philippe Kourelski, des kéfirs, des boissons fermentées, de fruits, de lait pour améliorer notre microbiote? Ont-elles une influence sur la composition, justement, de ce microbiote?
J'en sais rien, mais j'aime bien.
Ah oui, c'est vrai?
Voilà.
Donc vous êtes plutôt favorable au fait qu'on... Enfin, vous en consommez?
De temps à autre.
Ah, c'est vrai?
Bien, oui.
Donc, c'est plutôt intéressant, selon vous.
Bah, je ne suis pas trop dégradé, si c'est ça que vous
Mais absolument. Vous avez très bonne mine, je peux en témoigner à ce micro. De là à savoir si c'est grâce à ces probiotiques, on ne sait pas pour l'instant. Un exemple concret, en tout cas, Geneviève Herriot-Arnaud, sur lequel vous travaillez, c'est la mucoviscidose, hein, puisque vous êtes spécialisée en bactériologie de cette maladie, dans le microbiote pulmonaire. Depuis quand, donc, on a identifié la présence de bactéries dans les poumons, exactement? Alors, c'est une grosse surprise.
Une grosse surprise, hein, oui, parce qu'en fait, tous les étudiants qui ont fait des études médicales ont appris ou apprenaient que le microbiote est pulmonaire, enfin que les poumons étaient stériles et que de retrouver des bactéries provenant du poumon, c'était anormal. Et en fait, ça date à peu près il y a 5 ans. Il y a une publication
très récent.
En fait, en gros, le poumon est le petit retardataire dans l'étude des microbiotes. Alors, aussi parce que c'est un organe qui est difficile d'atteindre, qui peut être contaminé aussi par la flore salivaire. Donc, pendant très longtemps, tout ce qu'on retrouvait, on disait, bah oui, c'est une contamination par la salive et ça ne vient pas, en fait, des voies aérienne inférieure. Ouais. Et donc, les premières études qui ont été faites chez les sujets sains, chez qui on a prélevé au niveau des bronches, donc au niveau de profond, et on a ramené en gros 2000 génomes par centimètre carré. On estime à peu près à 10^5 bactéries par millilitre de fluide à ce niveau-là. Donc c'est beaucoup moins que dans l'intestin, mais ce n'est pas anodin. Et donc ça date en gros d'il y a 5 ans.
Ouais. Ça, ce sont des petites révolutions quand même dans vos domaines, Philippe Kourelski, lorsqu'on fait ce type de découverte. Non, là, c'est un continent qui s'ouvre tout d'un coup.
C'est un continent qui s'ouvre, d'autant plus que le poumon, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, mais c'est à peu près aussi qu'un terrain de foot, hein, une fois déployé. Donc même s'il n'y a pas tellement de bactéries par millimètre carré, ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup à la fin.
Ah oui, si on le met vraiment à plat,
oui,
on arrive à une surface...
C'est énorme.
Oui.
C'est énorme.
La mucoviscidose, Geneviève Héry-Arnaud. Alors, d'abord, quelle est cette maladie? Rappelez-nous en quelques mots.
En
et puis
mots,
la piste bactérienne.
En deux mots, alors, la mucoviscidose, c'est donc une maladie génétique. Pour être malade, il faut avoir ces deux allèles qui sont atteints d'une mutation. La mutation porte sur un gène qui s'appelle le gène CFTR et qui va coder tout simplement pour une protéine qui a pour rôle, en fait, de faire passer des ions de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur, notamment les ions chlorure. Donc en fait, on l'appelle plus simplement le canal chlore. Les patients qui sont atteints de mutation vont avoir ce canal chlore soit qui soit absent, soit qui va dysfonctionner. Et le résultat, c'est qu'au niveau de toutes les glandes exocrines de l'organisme, il va y avoir donc en fait des glandes qui sécrètent quelque chose.
Merci.
Il va y avoir une déshydratation du mucus. Et donc, ça se voit au niveau de l'intestin, mais également au niveau du poumon. Mmh. Et donc, normalement, dans le poumon, au niveau de l'arbre trachéobronchique, on a des cellules qui sont ciliées. Donc, il y a des petites cils à la surface qui nous permettent, en fait, de nous débarrasser des bactéries.
Parce qu'on inhale. Des petits cils qui nettoient.
Voilà. Donc, c'est simplement, on va dire, un travail mécanique. Mmh. Et donc, les patients qui sont atteints de mucoviscidose, malheureusement, ont un mucus qui va s'enchasser dans ces cils. Et donc, les cils ne vont plus pouvoir faire leur travail. Mmh. Et donc, ces patients, petit à petit, au fur et à mesure de leur vie, vont se coloniser avec des bactéries qui sont pathogènes et qui vont provoquer l'infection et la dégradation de leur fonction pulmonaire.
Alors, votre piste, vous, sur la mucoviscidose avec le biais des bactéries, quelle est-elle?
Alors, en fait, le lien, c'est donc quand on a commencé dans mon équipe à Brest à travailler sur la mucoviscidose versant bactériologie, est arrivé donc les connaissances sur le microbiote et en fait, un changement total de paradigme. Puisqu'avant, on voyait en gros une infection un pathogène. Et avec la découverte du microbiote, on est en train de s'apercevoir que c'est non seulement un pathogène, par exemple Pseudomonas aeruginosa, qui est une bactérie qui est vraiment très délétère pour les patients atteints de mucoviscidose, qui est responsable de la mortalité des patients. On s'est rendu compte que derrière ce pathogène, il y avait toute une armée de bactéries qui avaient un rôle soit positif, soit négatif, mais qu'en gros, c'était une entité pathogénique. Donc on ne parle plus d'un seul pathogène, on ne parle plus d'infection monomicrobienne, mais on parle d'infection polymicrobienne. Et donc à l'heure actuelle, ce que l'on fait, c'est que l'on étudie toute cette armée de bactéries pour essayer de disséquer le rôle qu'elles ont et voir, essayer de trouver dedans soit des biomarqueurs, des marqueurs pronostiques, soit des moyens d'aller contrecarrer l'infection par des pathogènes, notamment par le bacille pyocyanique.
Ouais. Et ça, ces expérimentations, vous les menez sur l'animal là encore en ce moment ?
Alors non, actuellement en fait on est sur de l'ex vivo, on est parti sur une étude observationnelle, on a récupéré pendant 3 ans de manière itérative des prélèvements respiratoires qui venaient de patients atteints de mucoviscidose et on travaille directement à partir de ces prélèvements, ce sont des expectorations et on va donc décrypter le microbiote chez ces patients et les analyser en fonction de leur pronostic et de leur évolution.
Et là, il y a des pistes thérapeutiques très sérieuses ou il va falloir encore beaucoup de temps?
Alors, il va falloir encore beaucoup de temps. À l'heure actuelle, on n'est pas vraiment dans la thérapie, on est plus dans l'explication de la maladie. Déjà, c'est une première étape vers le succès du combat contre la maladie, c'est déjà mieux comprendre. Et donc, mieux comprendre comment se fait l'infection, qui est-ce qui fait le lit du pathogène, on est plutôt dans ces étapes-là, voire après essayer de trouver des biomarqueurs au sein de ce microbiote pour mieux suivre l'évolution, anticiper des dégradations, les exacerbations chez les patients atteints de mucoviscidose.
Philippe Kourilski, votre regard sur ce travail de recherche assez étonnant et prometteur?
C'est extrêmement important de continuer à chercher dans cette direction. Ça nous renvoie une notion très classique, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le médecin de famille, il parlait du terrain. Hein. Le terrain sur lequel, voilà, mais le terrain, une partie du terrain, c'est ça. Il y a une partie du terrain qui est génétique, incidemment, et l'autre partie, c'est ça. Et donc, les progrès que vont faire la recherche, les recherches dans ces directions sont totalement importants. Mais c'est au stade de la recherche, et ça, il faut bien le comprendre. Quelques années, et à mon avis, il y aura des progrès vraiment très importants.
Il faut toujours être patient.
Eh oui.
Avec la recherche, là, il y en a encore pour de nombreuses années, mais ce sont ces pistes, évidemment, qui sont très intéressantes à explorer, et que vous menez à Brest
en particulier. Et actuellement, je suis dans l'équipe Michaelis à Jouy-en-Josas, où on fait une collaboration aussi. On a des collaborations futures, parce qu'il y a un axe aussi très intéressant entre l'intestin et le poumon qui est nécessaire de creuser.
Merci infiniment à tous les deux. Philippe Kourilski, donc le jeu du hasard et de la complexité, c'est chez Odile Jacob, la nouvelle science de l'immunologie. Et puis Geneviève Héry-Arnaud, bon retour à Brest. Merci d'être venu dans La Tête au Carré.